On vient de l'entendre donc avec Kevin Quirion-Poirier, biologiste à la direction de la gestion de la faune de l'Outaouais. Le cladocère épineux pose vraiment des risques sérieux. C'est un enjeu. Ça peut avoir des conséquences. Ça vient, il disait, là, chambouler la chaîne alimentaire. Puis c'est une espèce qui est, il disait, pratiquement impossible à se débarrasser. C'est vraiment... C'est tout petit, c'est dur à identifier. C'est pas une espèce qui est facile. Par exemple, comme le myriophylle à épi, où on peut le voir, l'enlever plus facilement. Le cladocère épineux, c'est une espèce bien particulière. Et on poursuit la discussion avec Chloé Tellier. Elle est directrice générale de l'aire phonique communautaire du réservoir Bascatong, qui doit un peu gérer maintenant la présence de ce crustacé dans les eaux du lac. Madame Tellier, bonjour.
Oui, bonjour.
Donc, justement, comment est-ce que vous avez été mis, vous, au fait de la présence du cladocère épineux dans le réservoir Bascatong? Quelle a été votre réaction quand vous avez appris ça?
Oui, la semaine dernière, il y a un pêcheur qui est rentré en contact avec nous pour nous informer qu'il avait trouvé vraiment une agglomération de ce qu'il croyait être du cladocère. Donc, nous, on lui a demandé une preuve, une photo, un échantillon, quelque chose que l'ASC est allé chercher directement. Puis, on a vraiment identifié sous microscope le cladocère épineux. Donc, oui, on a été les premiers surpris de tout ça. Ça a vraiment été un étonnement au niveau de l'équipe. Puis, c'est sûr que ça a enchamboulé un petit peu notre routine là, de ces dernières semaines-là.
Oui, c'est ça, c'est sûr. Puis là, tu sais, ce qu'on se rend compte en parlant, avec le spécialiste tout à l'heure, c'est que c'est probablement pas depuis la semaine dernière que c'est présent, là. Ça doit être probablement depuis plusieurs années parce qu'il dit qu'il y a une période de latence au début. C'est très difficile à détecter. Donc, si on est en mesure de le détecter aujourd'hui, c'est probable qu'il y en a depuis plusieurs années, là.
Oui, parce qu'on se le cachera pas. Il y a énormément d'eau dans le réservoir Bascatong. Donc, c'est pas quelques spécimens, là. Ça fait peut-être 10 ans que c'est déjà incrusté, mais le temps qu'on soit capable de le détecter, effectivement, ça fait probablement un petit bout de temps, là.
C'est ce qui est un peu inquiétant parce que, tu sais, là, on disait avec, le biologiste nous disait probablement, en tout cas fort à parier, que ça l'a atteint la rivière Gatineau, donc par extension le lac Sainte-Marie. Puis, tu sais, si on dit ça fait 5 ans, 10 ans, on sait que le lavage des embarcations, c'est une pratique qui est quand même récente, dont il y a 10 ans, les gens lavaient à peu près pas leur embarcation. Donc, on peut même parier que le mal est fait dans d'autres lacs de la région, qu'il y a déjà des contaminations. Ça, on présume, on n'a pas de confirmation, mais même quand on le sait, on dit qu'on en avait dans la rivière des Outaouais, puis que même si on le sait, quand on essaie de les trouver, on les trouve pas parce que c'est difficile à détecter. Donc, même si on sait qu'il existe, quand on veut le repérer, le répertorier, difficile à faire. Donc, c'est vraiment, c'est tout petit, hein, c'est micro, c'est 15 mm dans le top, c'est 15 mm de gros, donc c'est très difficile à voir. Qu'est-ce que ça change finalement? Est-ce que l'AFC va procéder à des opérations particulières une fois qu'on sait que c'est présent dans le plan d'eau?
Oui, dans le fond, au moment même où est-ce qu'on a eu la confirmation que c'était du cladocère, on a informé le ministère. Et là, s'en est suivi vraiment une série d'étapes. Donc, dans les prochaines semaines, on va vraiment procéder à de l'échantillonnage sur le Bascatong pour voir l'étendue, justement, de l'envahissement. C'est vraiment une espèce de filet composé de minuscules mailles, un peu une forme conique, puis qu'on va venir descendre dans des colonnes d'eau qui prélève vraiment du plancton. Puis là, je m'excuse pour ceux qui sont un petit peu hypochondriaques, mais on en ressort vraiment tout ce qui est petit plancton, plus d'eau, des vers, des méduses et le cladocère épineux qu'on va vraiment ensuite envoyer nos échantillons à Québec pour des analyses. Puis juste pour faire une petite précision là, à ceux qui nous écoutent, là, on ne récolte pas l'équivalent d'un pot de crème glacée Quaticook là, par colonne d'eau. Là. C'est vraiment quelques spécimens isolés. Donc, faut pas partir en peur puis s'alarmer avec tout ça, mais c'est quand même une nouvelle qui est préoccupante puisqu'on connaît pas encore vraiment, comme on dit, l'avenir puis la progression que l'espèce va avoir dans le réservoir puis surtout l'impact de l'écosystème. Mais comme vous l'avez dit, c'est pas le premier plan d'eau qu'il y en a au Québec que l'espèce est détectée. Il y en avait dans la rivière Outaouais, le lac Champlain, on en a dans la rivière Richelieu, la Quérier, donc il y a plusieurs plans d'eau. Mais ça reste entre autres qu'il faut demeurer vigilant en tant qu'usager, que ce soit plaisancier ou pêcheur, c'est sûr.
Est-ce qu'il y a d'autres étapes de prévues par la suite? Ou ça, c'est l'étape numéro un. Est-ce qu'on sait déjà c'est quoi le plan de match pour la suite?
C'est sûr que comme M. Poirier vous a dit, si on en a aujourd'hui, on va en avoir dans 100 ans. On devrait connaître un pic. Est-ce que ça va être dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans? On ne le sait pas encore. C'est sûr que c'est exponentiel, justement, au niveau du cheptel, si vous voulez, du cladocère. Donc, ça va être vraiment d'évaluer la progression, si c'est une progression lente ou plus rapide dans un réservoir. Si je me trompe pas, c'est vraiment la première fois que ça arrive. Fait que ça va être vraiment à déterminer dans les prochaines étapes. Donc, nous, en tant qu'AFC, on va vraiment procéder à de l'échantillonnage régulièrement pour justement voir la courbe de croissance, si on veut, puis ensuite prédéterminer à suivre les étapes. C'est sûr que c'était déjà dans nos projets, mais de mettre en place des plus grosses et plus adaptées stations de lavage de bateaux qui devraient arriver prochainement. C'est sûr que ça tombe sur, désolé l'anglicisme, un timing plutôt spécial, là, mais c'était déjà dans les projets d'adapter tout ça.
L'impact majeur, parce que bon, cette bestiole-là, c'est pas ce qui va nous empêcher de profiter du plan d'eau, de s'y baigner, mais c'est la chaîne alimentaire. Ce que le biologiste expliquait, c'est que ça vient chambouler cette chaîne alimentaire. On sait pas l'impact. Est-ce que ça va être un petit impact, un impact plus considérable? C'est difficile parce que justement, tous les plans d'eau sont différents, ils ont des espèces différentes, donc le déséquilibre que ça crée dans cette chaîne alimentaire, il est difficile à prévoir, mais on sait que ça va avoir un impact sur la chaîne alimentaire. Donc, si on pousse à l'autre extrême, c'est de dire qu'il va peut-être avoir des poissons de moins grande taille, en moins grande quantité. Quand on sait que le basse-catangue a déjà une pression de pêche qui est à sa pleine capacité, ça va peut-être changer justement des approches de l'AFC dans le nombre de poissons. Il va peut-être avoir des changements dans les façons de faire dans l'avenir lorsqu'on se rend compte, finalement, ça vient de diminuer de 20% la présence de doré dans le lac. Si on se concentre sur cette espèce-là, ça se pourrait qu'on ait à mettre en place des mesures particulières pour conserver la viabilité de la présence des poissons, là.
Oui, exactement. Ben, l'AFC, c'est déjà dans son mandat. Dans le fond, à chaque 5 ans, on procède à des pêches expérimentales pour voir justement la santé du cheptel ou quoi que ce soit des facteurs externes du plan d'eau. Puis par la suite, comme je vous dis, c'est à chaque 5 ans. Donc, c'est ça, les résultats qui adaptent nos actions, notre plan d'action pour les 5 prochaines années. Donc, c'est toujours de s'adapter. Là, c'est simplement un facteur supplémentaire qui va venir s'ajouter à tout ça. Mais dans tous les cas, oui, on s'adapte en fonction des résultats qu'on a. Puis on change les actions qui sont nécessaires pour garder justement un équilibre dans tout cet écosystème-là du réservoir, là.
Puis on va terminer en rappelant les bonnes pratiques parce que, bon, vous parliez de lavage du bateau, c'est vraiment... Puis c'est pas juste le bateau. La coque extérieure, c'est aussi le vivier, c'est partout où il peut y avoir de l'eau parce que les larves, les œufs de ces petits cladocères survivent à bien des intempéries, de ce que j'ai compris. Donc, ça peut même être dans des eaux des poissons à pas. Ça peut se retrouver à peu près partout, même sur les leurres, sur les lignes à pêche. Donc là, il faut commencer à penser pas juste à nettoyer la coque extérieure, mais le vivier, l'intérieur du bateau et même le matériel de pêche, là, dans le meilleur des mondes.
Oui, bien, dans le fond, c'est vraiment de prendre des actions préventives de façon, c'est sûr, individuelle, qui reste l'arme la plus efficace, si vous voulez. Puis, c'est comme vous le dites, c'est nettoyer nos équipements avant chaque changement de plan d'eau. Donc, si vous mettez votre bateau à l'eau au printemps, puis vous le sortez à l'automne pour l'entreposer, puis il revient sur le basse-catangue, c'est sûr qu'il ne change pas de plan d'eau. Donc, ça ne changera absolument rien. Si vous allez à plusieurs endroits au Québec, bien, c'est là que c'est à chaque fois que vous sortez d'un plan d'eau, c'est important d'inspecter. Mais là, ça ne va pas juste pour un bateau. Ça peut être une rame de kayak, ça peut être une remorque de silo, ça peut être l'équipement de pêche. Qui est, dans le fond, comme vous dites, n'importe quoi qui a été en contact avec de l'eau, parce que, rappelons-le, ça a environ 1 cm de long, puis ça s'accroche à n'importe quoi. Ce qui est important, c'est de penser à ne pas déplacer l'eau, donc vider et drainer l'eau, que ce soit la cale, le vivier. Puis les poissons à pas, oui, mais ben, il y a une raison pour laquelle il y a cette réglementation-là de ne pas pêcher avec du poisson à pas vivant l'hiver, donc c'est pas d'appât justement l'été, donc ça a une raison d'être. Puis, on le fait même sur le basse-catangue, même si on a déjà une espèce nuisible qui a été détectée, il faut continuer à le faire avant de venir sur le basse-catangue si vous arrivez d'un autre plan d'eau, parce qu'il y a une multitude d'autres espèces envahissantes qui est possible. On peut avoir la moule zébrée, on peut avoir, on a beaucoup entendu parler il n'y a pas si longtemps que ça, mais les algues bleues, donc on ne veut pas en avoir une autre qui va être intégrée dans notre écosystème. Donc, c'est essayer de réduire la propagation de n'importe quoi qui n'est pas voulu d'un plan d'eau à l'autre.
Effectivement, puis, c'est ça.
Puis oui, puis ce qui est du glas de fer épineux, juste informer les utilisateurs du basket-on, il n'y a aucun danger pour l'être humain, que ce soit pour se baigner ou quoi que ce soit, ni pour la consommation de poissons.
C'est bien rappelé, c'est ça, effectivement. Mais bon, c'est quand même quelque chose qu'il va falloir surveiller. C'est un impondérable qui vient s'ajouter dans le calcul de tout ça, là, dans vos activités régulières de gestion du doré là, sur le basket-on. Écoutez, Chloé Tellier, je le dis, je le rappelle, vous êtes la directrice générale de l'AFC basket-on du côté de Grand Remous. Donc, écoutez, on vous souhaite bonne chance avec cette nouvelle découverte, puis on va suivre le dossier avec attention, comme vous allez le faire, parce que ça va évoluer. On ne sait pas vers où on se dirige. On sait que c'est pas de bon augure, mais dans quelle ampleur, c'est le temps qui pourra nous le dire. Madame Tellier, merci beaucoup.
Je vous remercie aussi, puis j'invite toutes les gens qui écoutent en ce moment à suivre notre page Facebook pour connaître justement les informations à jour sur le sujet.
L'invitation est lancée. Merci.
Merci, bonne journée.
Donc, situation quand même sérieuse, la présence de ce cladocère épineux. Va falloir apprendre à le myriophile épi, moule zébré, carpe asiatique, ça va bien. Cladocère épineux, va falloir que je l'apprenne celui-là. Pas facile, mais je pense qu'il va falloir qu'on apprenne à vivre, à composer avec la présence de cette nouvelle espèce exotique envahissante dans les plans d'eau de la région. Et comme le faisait valoir Mme Tellier, l'effet de tout ça sera connu dans les prochaines années. C'est vraiment pas à court et moyen terme, c'est plutôt à long terme qu'on va pouvoir prendre la pleine mesure de l'impact que ça aura sur les populations de poissons, notamment qui vivent au réservoir Basket-on. Donc, c'est ainsi que prend fin l'émission, l'heure juste d'aujourd'hui. Ça a été un plaisir d'être à la barre de l'émission. Je vous souhaite une excellente semaine. Continuez à surveiller l'actualité sur notre site Internet, www.caga.fm, dans la section Nouvelles. Vous voulez réentendre aussi un segment de l'émission dans la section Émissions sous l'onglet L'heure juste et écouter nos différents bulletins de nouvelles quotidiennement sur nos ondes. Et sinon, là-dessus, on se souhaite une bonne semaine et on se dit à la semaine prochaine. Au revoir!